Well, it seems to me that everybody speaks about Europol the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 39. Journée de vote sur le continent.
Full Continental. Caroline Gillet. Sur France Inter et la RTBF.
The Treaty of Lisbon, Lisbon 2007. Two sides of the same.
Ce que vous entendez là, c'est l'œuvre d'un jeune artiste danois, Magnus Andersson. Il a enregistré des enfants qui récitent en chœur des traités de libre-échange européens sur les mélodies d'hymnes nationaux. Je trouve ça assez drôle. Et à l'heure où je réécoute ces enfants, je me dis quand même qu'il y a des hymnes nationaux qui ressemblent de très près à des chants de Noël. À l'heure où je me dis ça, ce n'est pas encore les élections européennes. Alors que vous, à l'heure où vous m'écoutez, soit c'est le jour J, soit c'est passé, c'est trop tard. Si c'est le jour J, peut-être que d'ici quelques heures, vous allez voter dans une ville ou à la campagne, près de la mer ou au creux des montagnes, dans les Carpates peut-être. Ou alors vous allez à un barbecue. Ou alors vous n'avez pas le temps, pas l'envie de voter. Ou alors vous y êtes pris trop tard. Et vous n'avez pas fait de procuration. En tout cas, vous qui êtes dans le futur, je vous envie un peu d'en savoir plus que moi, de savoir ce qui s'est passé. J'ai appelé Zuzana en Slovaquie, qui elle aussi est en attente du vote et de ses résultats. Zuzana, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est la jeune femme qui lutte contre la corruption et qu'on entendait dans l'épisode 21 sur les lanceurs d'alerte.
Well, if you would like to speak with Zuzana Hlavková,
she's not. It's not Zuzana. I thought it was Zuzana.
No, I am Zuzana, but I'm another Zuzana.
Oh, wow. Okay. Zuzana me dit que c'est en Slovaquie qu'il y a eu aux dernières élections européennes le plus haut taux d'abstention. Oh, wow.
So we hope it's going to be better this time.
Elle dit que s'il fait mauvais, les Slovaques iront plus voter. S'il fait beau, ils partiront pour le week-end. Elle m'explique, pour les Slovaques, c'est abstrait. Ils se disent que voter, ça ne changera rien dans leur vie quotidienne. Elle me dit que cette année, il y a parmi les candidats des néo-nazis qui pourraient obtenir des sièges. Liliana Lazar, qui elle est une autrice franco-roumaine, me disait, elle, qu'on avait tort de se fier à la météo.
C'est vrai que souvent, quand il y a un jour d'élection, c'est la première question qu'on se pose. Moi, ça m'agace un peu, la télé, la radio, les journaux. Est-ce qu'il va faire beau? S'il fait beau, est-ce que les gens vont voter? Comme si le temps était plus important que ce pourquoi on vote ou on ne vote pas.
Moi qui vous parle depuis le passé préélectoral, je peux vous dire que ces derniers jours, au niveau de Paris, il fait froid, il fait humide, et c'est prévu comme ça jusqu'aux élections. Alors on a eu envie de vous proposer une émission comme un plaid patchwork, chaud mais surtout fait de plein de petits bouts, glanés partout. Et la cohérence, ce qui rassemble ces petits bouts, ces témoignages de partout, c'est que tous ceux qui parleront ici sont des jeunes artistes européens. Et chacun a souhaité aborder une préoccupation des 25-35 ans pour l'avenir de ce continent qu'il ou elle porte dans son travail. Ce qui me semblait chouette, c'est que comme a priori les jeunes ne seront pas entendus, puisqu'ils n'iront pas voter dans leur très grande majorité, peut-être que vous, qui nous écoutez, vous irez voter avec leurs inquiétudes en tête.
Make a difference, different, and think global.
Mais revenons à cet hymne décalé. On peut l'entendre en entrant dans une exposition sur les jeunes artistes en Europe, ça tombe bien, organisée par la Fondation Cartier. Je lis dans le dossier de presse qu'avec son projet, l'éducation régionale, Magnus Andersson veut représenter des jeunes dans une profonde réflexion sur leur place au sein de la société et le rôle qu'ils devront bientôt y tenir. On va entendre Casper, peintre belge, Gabriel, cinéaste du Portugal, Elena, qui est cinéaste géorgienne, et Zéro Calcar, qui est auteur de bande dessinée, qui a été marqué par ses années punk et la guerre des rues à l'époque avec l'extrême droite.
C'était vraiment un niveau très violent, c'est-à-dire que si tu te rencontrais dans la rue à 100 mètres de distance, les gens ils commençaient à te courir après, tout ça, c'était vraiment comme ça.
Mais... Parce que tu avais un look de punk ?
Oui, parce que tu avais un look de punk, parce que par certains détails, ils comprenaient que tu n'étais pas de leur côté.
C'est quel détail, par exemple ?
Ben, ça peut être les cheveux, si tu as un look de punk ou si tu as les cheveux longs. Si tu as des Doc Martens avec des lacets d'une couleur différente, tout ça.
Aujourd'hui, dans son travail, Zéro Calcar parle de ce qui est devenu sa génération, des jeunes trentenaires biberonnés à Dragon Ball Z. Avant Zéro Calcar, on commence avec Casper, qui lui est belge et qui lui aussi fait partie de cette exposition à la Fondation Cartier. L'exposition s'appelle Métamorphose et lors du vernissage, entre deux petits pains saumon, je lui ai demandé où il s'imaginait le 26 mai. Ça y est, là, c'est dimanche, tu fais quoi et tu es où ?
À Bruxelles, et je crois que je vais rien faire toute la journée, juste voter et boire que de l'alcool toute la journée. Mmh. Et là, on est sûr que le jour est raté.
C'est raté les jours où on fait que boire de l'alcool ?
Ben, c'était comme le dimanche avec mamie, on la visite, on arrive vers 11h30 et elle est en train de cuisiner, elle te dit « je te donne un petit verre de Porto ». Et là, t'es sûr que c'est dimanche et tu ne vas rien faire, rien de spectaculaire, et rien intéressant et pas travailler. Et après, croquettes.
Croquettes ?
Yeah, croquettes.
C'est quoi ?
Des croquettes. Juste des croquettes de pommes de terre avec quelque chose de... Yeah, gras et c'est bien.
Casper, je le trouve intéressant parce qu'avec son travail, il parle bien d'une préoccupation de cette génération, l'accès aux outils numériques et ce que ça permet. Le nom complet de Casper, c'est Casper Bosmans. Il a 28 ans, il vient du nord de la Belgique, près de la frontière hollandaise. Et il travaille aujourd'hui à Amsterdam. Lui, son idée, c'est que malgré l'ambiance parfois morose, c'était pas mieux avant. Il dit « Aujourd'hui, en tant qu'artiste, les choses sont plus faciles. Avec Internet, on a accès à beaucoup d'images, on peut être plus indépendant. Alors oui, c'est difficile d'être autonome, mais c'est une ambition qui lui plaît beaucoup. »
Toute ma vie, je voulais être un artiste. Donc depuis j'avais 4 ans, quelque chose comme ça. Donc on parlait à part de Van Dyck et Rubens, et donc c'était mon ambition. Par exemple, quand j'ai fait ma première communion, on devait se lever sur une chaise et dire dans l'église, qu'est-ce que tu veux devenir ? Je voulais devenir artiste peintre. Et donc toute l'église était en train de rigoler, bien sûr. Et donc je suis directement commencé à l'académie d'Anvers, et j'ai toujours dessiné, fait de la peinture, fait de la sculpture. Donc ça n'a jamais arrêté.
Voilà ce que je lis sur ses œuvres dans le dossier de presse de l'exposition. Empruntant aussi bien à l'univers d'Internet et de la presse qu'à la tradition héraldique caractérisée par le langage graphique des blasons, ses peintures forment une sorte de rébus destiné à illustrer le matériau historique qu'il a rassemblé pour ses œuvres, du folklore, des traditions, des légendes belges notamment. Tel un artiste conteur à l'ère de la post-vérité, Casper Bosmans confronte visuellement passé et présent, traitant non seulement de questions liées à la migration et aux identités, mais aussi de l'écologie ou des catastrophes nucléaires.
Je crois que mon intérêt pour des objets m'a donné envie d'apprendre l'histoire. Quand je vois un objet, par exemple, vous trouvez dans le marché Opus et vous trouvez un tire-bouchon et vous n'avez jamais vu tire-bouchon dans la vie, mais vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, et là vous voulez savoir quelle est la conséquence culturelle du tire-bouchon pour la France. Et ça m'a donné envie d'apprendre des milliers de choses. Je veux savoir beaucoup.
Le père de Casper est policier et il vient d'une famille très flamande, ce sont ses mots. Sa mère, elle, est professeure d'histoire de l'art.
Et donc, par exemple, quand j'avais 14 ans, je commençais à cuisiner, ou travailler dans une cuisine. Chaque samedi, je travaille. Et avec l'argent que je gagne le samedi, le dimanche, je vais à une marché à Anvers, un marché d'antiquité. Et là, j'achète une boîte de gravures, des choses imprimées. Je les amène à la maison. Et là, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a... Maintenant, encore, je m'intéresse beaucoup pour de vieilles livres, de l'art, d'autres artistes aussi. C'est comme une cave chez nous. Okay. C'est ma mère, c'est vraiment... C'est chaque centimètre carré décoré avec 3 différentes couleurs et différentes histoires. Mais c'est intéressant, je trouve.
Casper ne produit que des petites toiles. Comme ça, s'il veut les envoyer par mail, elles font tout juste la taille d'un scanner.
Je ne vais pas engager un photographe professionnel pour le faire. Et ça me donne un peu d'autonomie.
Dans ses œuvres, Casper se demande notamment pourquoi la Palouza est le cheval des Indiens d'Amérique et pourquoi est-ce que ça a un lien avec Louis XIV. Il se demande aussi pourquoi il y a une croix sur le dos des ânes. Et pour toutes ces questions, il cherche les réponses dans le passé.
Le risque est toujours que les histoires qu'on ne peut pas raconter dans 2 phrases vont disparaître. Et ça m'intéresse beaucoup. Le monde est complexe et pour ça, l'art peut être complexe aussi. Je me souviens, et beaucoup de gens se souviennent, que utiliser Wikipédia était un tabou. Maintenant, ce n'est plus un tabou. On trouve vraiment beaucoup de sources, beaucoup de livres dans la liste de lecture en dessous de chaque article. Mais aussi, j'aime bien travailler avec des livres et des objets, car l'objet ou le livre te trouve. Comme Hans-Ulrich Obrist l'a dit, un livre te trouve au lieu que tu le trouves. Et ça, c'est intéressant.
Et donc, tu trouves qu'il faut aller rechercher cette histoire, la triturer, et peut-être justement aller chercher même des histoires qui sont fausses, qui ne sont pas vraiment avérées. Ton travail, ce n'est pas de vérifier qu'il le soit.
Il faut être un peu naïf pour faire une peinture. Il faut savoir se motiver. Et donc, la recherche peut tuer une œuvre, tu vois. Ça peut devenir trop raisonnable. Et l'art n'existe pas pour être raisonnable. Ça ne doit pas être raisonnable.
Ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup maintenant, en ce moment, la peur des fake news et de la manipulation, et de, notamment à travers Internet.
Fake news, c'est vraiment... Pourquoi ça existait toujours, hein? Comment... L'histoire est une invention. Par exemple, tu connais cette Mircea Eliade, c'était un anthropologue de la Roumanie. Il raconte que l'histoire est linéaire et successive, car par exemple, chaque année, on fait une sorte de une célébration de Nouvel An, mais c'est aussi pour oublier des choses.
J'ai l'impression que bon, c'est des grandes généralités, mais le vieux continent, il y a aussi un espèce de rapport maladif avec l'histoire et la nostalgie. Et que ça peut être très très épuisant, parce que de toute façon, on est en minorité, ceux qui ont moins de 30 ans, enfin, et du coup, de plus en plus, ce continent vieillit, et avec ces histoires qui empêchent un petit peu peut-être de...
Je crois que la nostalgie, pour moi, ça veut dire qu'on se souvient des détails ou des histoires ou des parties d'histoire qui font plaisir. C'est une sorte de interprétation de l'histoire facultative. C'est vraiment like cherry picking. On choisit les pièces doux. Mais on peut pas faire un gâteau avec que du sucre, que des cerises. Ça m'intéresse pas. Donc je ne crois pas que je suis nostalgique. On a une liberté aujourd'hui, hein. Aussi, on a la liberté d'être conservatif. C'est aussi possible. Et c'est important que c'est possible, je trouve. C'est très important. Je ne m'inquiète pas pour les conservatifs, la politique conservative et populiste. Et,
Tu n'es pas inquiet?
Non, pas du tout. Non.
Après le disque, on va en Géorgie, au Portugal et en Italie. Pas de nostalgie promis après le disque, choisi par Djoubaka. Voilà Danger Mouse par Karen O. Ministry. Dans Full Continental, une émission qui, pour la première de la RTBF et pour France Inter depuis l'été dernier, parcourt avec la jeunesse le vieux continent. Dans le prochain épisode, on ira en Irlande, on fera des longs portraits, promis. Mais aujourd'hui, on est un peu fébrile. C'est les élections. Nous, on est dans notre bulle européenne, alors ça fait des mois qu'on attend ça. On a presque l'impression qu'il peut se passer des trucs fous. Et puis en fait, comme le jour des élections, on n'a pas le droit de parler de parti, français ou belge, on a décidé de voyager, de se laisser porter, laissez-vous faire. On va aller en Géorgie, au Portugal et en Italie, rencontrer des jeunes artistes qui ne sont pas encartés, mais qui, dans leur travail, parlent de leurs préoccupations pour ce continent. Elena, par exemple, elle a accepté de nous parler pendant sa pause déj. Elle est dans un parc de Koutaïssi, à l'ouest de la Géorgie. Elle s'occupe des costumes sur le tournage d'un film qui s'appellera « Wind Has Blown ».
Je me promène dans le parc, ils sont en train d'avoir leur pause déjeuner. Je regarde les pâquerettes, il y en a plein.
Okay. Et tu vois des voilà. bâtiments, tu vois que c'est que du vert
La rivière, le pont, on tourne beaucoup sur le pont. On a construit aussi un mini café où on vend des glaces pour le film. Et puis il y a toute la technique, la caméra, tout ça.
Elena nous a envoyé des photos de tournage, elles seront sur la page Facebook, vous en doutez bien. Elena est elle-même réalisatrice. Son dernier court-métrage parlait de frontières et de ce qu'elle a observé en Abkhazie. L'Abkhazie, c'est cette petite république au nord de la mer Noire qui a proclamé son indépendance de la Géorgie en 92. Du côté géorgien, on estime qu'il s'agit plutôt d'une annexion russe. Voilà un extrait de son film pour le plaisir d'entendre un peu de géorgien.
En Abkhazie, maintenant, les nouvelles lois changent dans les écoles. On ne peut plus enseigner en géorgien, petit à petit, et la langue d'enseignement devient le russe. Et les enfants géorgiens qui habitent là-bas ne comprennent pas cette langue, n'ont jamais parlé cette langue. Et du coup, ils ratent l'école. Et puis, ils n'arrivent plus à rentrer à l'université à Tbilissi. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils traversent dès 6 ans la frontière illégalement juste pour aller dans une école géorgienne. Donc c'était un peu sur ça, voilà.
Oh wow.
Parce que j'étais super impressionnée de voir des petits gamins de 6-7 ans traverser tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, je ne sais pas, la frontière et n'ont même pas peur, pas une seule seconde, juste pour aller dans une école géorgienne.
Et ça ressemble à quoi la frontière à cet endroit-là? Tu dis qu'ils n'ont pas peur parce que quoi, il y a des gardes-frontières?
Non, mais c'est une rivière. Il y a une partie, c'est une rivière. Donc, ils la traversent en nageant.
Ah ouais, quand même.
Et là où ils peuvent, ils traversent. Ouais.
Elena est belge depuis un an, même si elle est arrivée en Belgique, de Géorgie, il y a 25 ans. Son père avait des permis de travail renouvelables et donc bref, pendant 25 ans, ça a été compliqué d'avoir la nationalité belge.
En fait, c'est drôle parce que du coup, t'as habité en Belgique en étant géorgienne sans nationalité belge pendant plus de 10 ans.
J'avais un permis...
Un permis de séjour.
Oui, mais oui, c'est assez bizarre.
Le jour où tu deviens belge, tu pars en Géorgie.
Exactement.
Mais comment veux-tu qu'on s'y retrouve?
J'ai perdu ma nationalité. Le pire, c'est que quand j'ai reçu ma nationalité belge, j'ai perdu la géorgienne. Et donc, j'ai dû faire des démarches pour avoir la double. Et les démarches, c'est remplir des questionnaires, rassembler plein de témoignages qui disent que je suis une vraie patriote géorgienne. C'était très drôle. Et il faut passer un entretien. Donc, je suis arrivée à l'entretien et ils m'ont demandé pourquoi vous voulez être géorgienne. Et moi, j'ai dit, écoutez, ça fait 29 ans que je suis géorgienne. Et là, ça fait 3 mois que je ne le suis plus. Je trouve que c'est un peu bizarre, non? Puis ils ont dit, ah oui, c'est un peu bizarre.
Et c'est quoi être une patriote géorgienne?
Non, mais je n'ai aucune idée, parce que moi, je ne suis pas patriote. J'aime mon pays, bien sûr, mais je ne suis pas très nationaliste. Du coup, comme je suis un peu perdue entre deux pays, je ne sais pas.
Et est-ce que tu te sens européenne?
J'ai envie de dire que j'aime le projet européen, mais je n'aime pas du tout comment il est maintenant. Je ne me retrouve plus. Depuis la crise des réfugiés, là, j'ai envie de dire l'Europe, c'est horrible. On nous avait promis moins de frontières et on en a de plus en plus. C'est horrible comment on est, les politiques menées. Je n'adhère pas du tout, donc je ne suis pas très... Je ne suis pas sceptique, je n'ai pas envie qu'on arrête, mais j'ai envie qu'on revienne à ce qu'on avait imaginé au tout début.
C'est-à-dire?
Je pense à une fédération de pays qui œuvre pour la paix, pour l'entente et qui s'entraide. Là, on ne s'entraide pas du tout. On est en train de tous se manger. Qui prendra le plus de réfugiés? Qui va ouvrir ses frontières? Qui va payer pour la Grèce? C'est horrible. C'est horrible pour moi. Il n'y a pas du tout de solidarité. On a perdu le Le cœur et les sens, oui.
Un autre jeune cinéaste que j'ai rencontré à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris a lui aussi travaillé sur l'immigration. C'est Gabriel Abrante, il a 35 ans, et là, dans l'exposition sur les jeunes artistes en Europe, il a choisi plutôt de présenter un court-métrage sur la question du plaisir féminin. C'est assez drôle, et comme le faisait Casper, qu'on entendait tout à l'heure, il fait remonter des histoires du passé pour les réinterpréter. Dans A Brief History of Princess X, Gabriel évoque l'histoire de la princesse Marie Bonaparte, arrière-petite-fille de Napoléon et pionnière oubliée de la psychanalyse en France.
Je crois que Brancusi, il avait du mal à supporter Marie. Bah, c'est vrai qu'elle parlait tout le temps, et puis elle se regardait constamment dans son petit miroir de poche. Mais c'était une sacrée femme, hein. Une iconoclaste radicale, auteur d'une biographie très importante sur Edgar Poe. Elle avait des idées très, très subversives, hein. Elle disait, plus le clitoris est proche du vagin, plus il y a de chances de friction pendant la pénétration, ce qui facilite l'orgasme. Des pensées assez osées, hein. Même encore aujourd'hui.
Je vous conseille ce film, qui est présenté au sous-sol de l'exposition. Moi, quand j'avais rencontré Gabriel, c'était sur le toit de la Fondation Cartier, au soleil, mais aussi dans le vent, vous allez l'entendre. Et comme quand on fait une émission sur l'Europe, on ne sait plus quoi inventer pour divertir ceux qu'on interroge, je lui ai demandé pour commencer de dessiner non pas un clitoris, mais une carte de l'Europe.
J'essaie de faire le plus réaliste, parce que je pense que c'est le plus drôle.
Ah, je sens que tu commences par l'Espagne, là.
Ouais, Portugal, Espagne.
Portugal, Espagne.
Je pense que j'ai fait très peu d'espace.
Pour tout ce qui est le nord, ça va être difficile de trouver sa place.
Exactement. Non, mais j'utilise la deuxième page, c'est d'accord. OK.
Tu peux aussi squeezer le nord, hein. Après tout, ils ont tellement squeezé le sud que...
Exactement. C'est pas mal, quand même.
Franchement, c'est pas mal. Je suis pas mal bluffé. Toi, c'est quoi ton rapport à l'Europe?
Alors, ma famille, ma mère est née en Angola, quand c'était toujours une colonie portugaise, et mon père... aux Républiques démocratiques du Congo.
Et ça, c'était une colonie belge.
Oui, exactement. Mon grand-père, il travaillait là-bas dans une entreprise, je ne sais pas trop de quoi.
Gabriel, lui, est né aux États-Unis. Il a vécu aussi à Bruxelles. Et puis, il a fini par s'installer à Lisbonne.
Et j'ai essayé de faire un film autour du chauffement global. Un film fantastique de désastre où le chauffement global, finalement, ça cause les eaux à s'élever de niveau.
Gabriel a participé à des expositions, il a commencé à faire des films, à tourner un peu partout. Puis il y a eu son premier long-métrage, Diamantino, qui mettait en scène un footballeur star, héros du Portugal, dont le succès sportif déclinait à partir du jour où il se retrouvait nez à nez sur son yacht avec des migrants.
Mais ouais, Brecht a cette phrase que l'art n'est pas un miroir pour refléter la réalité, c'est un marteau pour la former. Et c'était toujours mon opinion. Après, je ne suis pas toujours tout à fait convaincu que ça marche, mais c'est une belle vision.
Gabriel, c'est difficile de le faire parler de lui, mais il évoque beaucoup la situation du Portugal, le passage à l'euro, la récession, la condescendance du FMI, et en même temps le tourisme de masse, la gentrification de Lisbonne et la hausse des loyers.
Aujourd'hui, notre génération sent tellement impuissant face à tellement des problèmes qui existent dans le monde que... on cherche le plaisir automatique, soit d'Instagram, soit de Facebook. On voit vraiment qu'il y a une nécessité de sentir que notre opinion est validée, qu'on est actif, qu'on a une vraie activité dans la vie.
T'es assez pessimiste.
Pas pessimiste, mais j'ai peur. Je pense qu'on vit maintenant un moment de crise qui se va évoluer et développer. Mais oui, je peux être pessimiste, mais mon pessimisme, c'est plutôt autour du changement climatérique. Et si on ne résout pas ce problème, on résoudra aucun autre, quoi.
Et alors, si tu pouvais mettre un artiste sur les billets de banque?
Il est décédé, mais Hans Hacker, que je pense qu'il aurait une vision, comment est-ce qu'on arrive dans une institution à détruire les préjugés et les immoralités de la propre institution.
Je ne connaissais pas cet artiste et c'est assez génial. En 1971, Hans Hacker a été invité pour une rétrospective de son travail au musée Guggenheim. Il était le plus jeune artiste à y être invité. Et alors à ce moment-là, voilà ce qu'il a décidé de faire.
Et lui, il a montré dans la grande spirale du Guggenheim des centaines de photos des bâtiments du Lower East Side. Et c'est des bâtiments qui ont des conditions subhumaines à l'époque, dans les années 70, avec du sewage qui n'était pas nettoyé, des conditions très agressives, des personnes qui louaient les maisons à les loueurs, et spécialement des populations migrants ou pauvres qui habitaient dedans. Et il a trouvé tous les registres des propriétaires de ces bâtiments, et beaucoup d'eux étaient les financiers de le Guggenheim. Et c'était censuré avant que ça ouvre. Et je pense que c'est la seule expo rétrospective censurée au Guggenheim par les propres financiers. C'est quelqu'un qui essaie de trouver qu'est-ce que c'est l'incongruence ou inconsistance dans une propre institution. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être assez utile dans une institution gouvernementale.
On va terminer cette série de portraits avec un autre trentenaire qu'on entendra plus longtemps. On dit de lui que c'est un des artistes italiens qui a le mieux parlé de sa génération. Et il l'a fait en bande dessinée. Alors je dois le dire, je suis devenue assez fan de son travail et je ne suis pas la seule. Libération lui a consacré tout un dossier dans lequel, pour vous donner envie de le lire, à ceux qui ne le connaissent pas ni en France ni en Belgique, ils avaient mis ceci. Je cite. Des heures et des heures de queue pour une simple dédicace. À Rome, Milan ou ailleurs. Et lui qui s'exécute, sans broncher, 13 heures d'affilée pour son record. Parce qu'il gagne beaucoup d'argent et que ça lui donne un sentiment de culpabilité, l'impression de devoir expier. En Italie, le succès de Zero Calcare est phénoménal. Des centaines de milliers d'exemplaires vendus de ses différentes BD, comme Coban Calling ou La prophétie du tatou. Vous pensez bien, du coup, j'étais assez curieuse de le voir en dédicace.
Ok.
J'aime bien comment il dit « ok ». Je me demande si c'est un truc italien ou si c'est juste lui. Là, on entend des jeunes filles dans la file qui gloussent. Je vais le laisser là avec ses fans, en dédicace dans la librairie, et en parallèle, on va lui poser des questions. Vous allez voir, c'est magique, et ce qui est magique aussi, c'est qu'il parle français. Zero Calcare a grandi dans le quartier de Re Bibbia. C'est au nord-est de Rome, au terminus de la ligne B du métro.
Alors, l'endroit que je préfère, c'est un petit parc où il y a une balançoire, voilà. Et t'avais en face les gros HLM, et on les appelle les maisons Harlequin. En fait, ce sont des maisons, il y a juste du gris et du bleu. Et derrière, il y a un parking avec, où dans les années 80, quand ils ont creusé pour construire ce parking, ils ont trouvé un squelette de mammouth. Et en fait, c'est pas un vrai mammouth, c'est un éléphant ancien. Et donc, il y a la partie espace vert, il y a la partie urbaine, il y a la partie préhistoire. Donc, c'est l'endroit que je préfère.
Et est-ce que c'est pour ça que tu avais envie d'être un dinosaure ?
Ouais, non, en fait, j'avais envie d'être un dinosaure déjà avant la sortie de Jurassic Park, parce que et avant même de savoir qu'il y avait un mammouth là-bas. Mais après, quand j'ai vu les dinosaures super bien faits dans Jurassic Park, je m'étais dit que c'était vraiment ce que je voulais être.
Lequel ?
Un tyrannosaure.
Et du coup, quand tu grandissais là-bas, tu traînais dans ces espaces-là, t'avais des copains d'enfance dont tu parles notamment dans ton travail ?
Oui, j'ai grandi avec pas mal de gens du quartier, mais en même temps, j'ai pas vraiment eu l'enfance dans les films, tu vois, les enfants qui traînent toute la journée, ils jouent au foot dans les rues et tout. Mais en fait, j'avais une Nintendo, j'étais souvent chez moi, je préférais rester chez moi que jouer dans la rue normalement.
Et un des moments fondateurs de ton histoire, c'est justement lié à une Game Boy. Je sais pas si c'est le cas dans ta vie réelle. C'est quoi cette histoire ?
En fait, quand j'ai eu une Game Boy, j'étais super content et il n'y en avait pas beaucoup en fait à l'école et dans le quartier, il y en avait je pense une ou deux. Et tout le monde était super content, ils avaient eu « Ah, s'il te plaît, est-ce que je peux jouer ? Est-ce que tu me la prêtes ?» Et il y avait plein de monde qui me demandait de prêter la Game Boy. Et moi, ma mère, elle m'avait toujours appris à partager et tout ça. Et donc, j'arrivais pas à dire non. Je disais, oui, d'accord, je te la prête. Mais comme il y avait déjà 5 ou 6 personnes qui faisaient la queue pour avoir, et si chacun, je lui prêtais un jour, ça faisait déjà toute la semaine sans Game Boy. Et donc, c'était horrible, en fait, parce que j'arrivais jamais à y jouer. Ouais, et ça m'a beaucoup marqué en général. Je pense que après, quand beaucoup plus grand, j'ai dû apprendre à dire non, même dans mon travail et tout ça. Je reviens souvent sur ce moment-là de ma vie. Ouais.
Et toute la BD est quand même tirée à partir de cette idée-là de est-ce qu'en fait il faut partager ou pas, est-ce qu'il faut comment on gère ses démons intérieurs, de faire le bien ou être égoïste, et c'est un peu ça l'idée.
Ouais, mais parce que c'est vraiment les questions qui me hantent tout le temps. C'est-à-dire que déjà, moi, je viens d'un milieu qui est super politique parce que j'ai grandi dans les squats, les centres sociaux italiens et tout ça. Et donc, la question éthique, le fait de partager et tout ça, c'est quelque chose qui se pose presque tous les jours. Mais au moment où tu deviens une personne qui est à peu près connue, qui est présente dans les médias et tout ça, toute ta communauté utilise pour faire passer plein de messages. Et donc, tu dois toujours comprendre c'est où la limite. Parfois, ça peut devenir même contre-produisant, même pour les causes mêmes. Parce que si chaque jour, je suis sur un journal, toujours pour une cause différente, après, je sais pas, j'ai l'impression d'être une espèce de marionnette. Donc, c'est super difficile.
Comment est-ce que t'es arrivé dans le milieu punk ?
Alors, je suis arrivé dans le milieu punk, en fait, en écoutant un truc qui n'était pas du tout punk, en fait. C'était Chumbawamba, dans les années, la fin des années 90. C'était connu, c'était sur MTV. Et un jour, ils jouaient à Rome, et j'étais allé là-bas, accompagné par ma mère. Ils étaient montés sur scène et il n'y avait pas la chanteuse parce que le jour même, le matin, elle s'était fait tabasser par la police à Turin et il lui avait pété toutes les dents parce qu'elle était à une manif, parce qu'il y avait deux squatteurs de Turin qui étaient morts en prison la semaine d'avant. Les squats en Italie, c'est pas seulement des endroits où on habite ou pas seulement des lieux artistiques, c'est souvent des locaux où il y a des associations qui font de l'activité politique, des écoles pour les étrangers, des écoles d'italiens et tout ça. Donc c'est quelque chose de très engagé en même temps. Et ça m'avait beaucoup marqué. Donc je m'étais dit que le jour d'après, je voulais connaître ces squats. Donc j'étais allé là-bas et c'était un peu les endroits où il y avait la scène punk, qui les concerts, ils étaient là-bas et tout. Et donc j'ai commencé un peu comme ça. Mais sinon, il y avait une punk un peu plus grande que moi dans mon lycée et j'étais amoureux d'elle et j'aimais bien. Quand elle me dit, elle me filait des cassettes, des CD pour écouter, j'aimais bien sa musique. Voilà, c'est un peu le mix des deux choses.
Ce serait quoi un souvenir marquant de cette époque-là ?
Mais en fait, cette époque, c'est même un peu maintenant. C'est-à-dire que c'est encore ma famille, c'est ma communauté. Moi, j'ai pratiquement aucune activité sociale en dehors de mon travail qui ne passe pas par ces endroits-là. Il y a plein de souvenirs parce qu'en fait, c'est des endroits qui créent beaucoup d'appartenance dans les années... entre 2003 et 2007, c'est des endroits qui ont été attaqués de façon très très forte et systématique par l'extrême droite. Il y avait pratiquement chaque semaine des attaques quand tu sortais d'un concert le samedi soir dans de ces squats. Il y avait presque chaque semaine des dizaines de personnes de nazis avec cagoulés, avec des couteaux, avec des bâtons. Il y a eu pas mal de personnes qui sont mortes à cause de ça. Il y a eu le frère d'un copain qui a été tué avec 8 coups de couteau au poumon. Il y en a eu un autre qui a été égorgé à Milan. J'ai eu un copain qui a aussi été égorgé et il est pas mort, mais il a eu ses cordes vocales coupées et il a pas parlé pendant longtemps et tout ça. Et c'est quelque chose de vraiment quotidien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais qui nous a vraiment rendu une famille.
Et pourquoi c'était comme ça à cette époque-là ? Ça correspond à quel moment politique en Italie ?
Ça correspond au moment, en fait, au centre-gauche, au pouvoir, alors qui niait systématiquement le fait qu'il existe une extrême droite en Italie et à Rome. Parce que avouer qu'il y avait des jeunes d'extrême droite, c'était quand même avouer qu'il y avait un problème social qu'ils n'arrivaient pas à faire face. Et donc, il y avait une politique d'équidistance. Ils disaient non, les extrêmes, ça n'existe plus. Il y a des jeunes de droite et des jeunes de gauche. Donc, si on donne un immeuble à des jeunes de gauche, on doit donner un immeuble même aux jeunes de droite. Et c'était le moment où ils disaient même que les partisans, ils étaient bien, mais il y en a pas mal qui ont commis des crimes. Et en même temps, les fascistes, c'est vrai, ils étaient du mauvais côté, mais il y en a pas mal qui étaient gentils. En fait, ils étaient en bonne foi et tout ça. Et en fait, ça a fait vraiment des dégâts culturels et voilà. Moi, j'avais pas mal de lieux de Rome, même dans le centre, où je pouvais pratiquement pas passer. C'était vraiment un niveau très violent. C'est-à-dire que si tu te rencontrais dans la rue à 100 mètres de distance, les gens ils commençaient à te courir après et tout ça. C'était vraiment comme ça.
Mais parce que t'avais un look de punk ?
Oui, parce que t'avais un look de punk, parce que par certains détails, ils comprenaient que t'étais pas de leur côté. Moi, je me suis fait 10 jours d'hôpital parce que ils m'ont pété toutes les dents, la mâchoire, le nez, et j'ai eu une amnésie de plusieurs mois. Et sinon, le fait même d'avoir une confrontation tellement continue et tout ça, ça a détruit tous les rapports, c'était impossible.
Voilà un autre extrait de l'article de Libération. Lire Zéro Calcar, c'est plonger dans son univers, teinté d'autodérision, d'angoisse, surtout de banalité quotidienne qui pue le vrai et contribue à l'identification générationnelle que ressentent ces milliers de lecteurs. L'amorosité socio-économique de l'Italie est en filigrane dans toute son œuvre.
En fait, on est grandi avec Olivier Tom, Cannes le survivant, Tigerman et tout ça. Et c'est toujours des exemples de grands sacrifices, de personnes qui donnent leur vie. Dans Cannes le survivant, il y en a un qui arrache ses yeux, mais même dans Les Chevaliers du Zodiac, ils arrachent ses yeux pour aider son copain et tout ça. Et on en parle souvent comme si c'était vraiment des leçons de vie et tout ça. Mais après, il faut dire que si je regarde un peu ma génération, qu'est-ce qu'elle a produit en fait, en termes de même ceux qui sont devenus classe dirigeante maintenant et tout ça, j'ai l'impression qu'on a juste absorbé la leçon du berlusconisme, c'est-à-dire l'individualisme et tout ça. J'ai l'impression que toutes ces leçons dont on parle beaucoup, quand on dit « ouais, moi j'ai grandi avec les Chevaliers du Zodiac » et tout ça, bah, je vois pas vraiment en quoi t'as grandi avec ça.
Pour toi, ça veut dire quoi l'Europe et comment est-ce que ta vision de l'Europe a évolué en grandissant ?
Alors, j'ai grandi avec une rhétorique de l'Europe. C'était un processus naturel. Le progrès allait dans cette direction. Et on pouvait pas revenir en arrière par rapport à ça. Mais on voulait même pas parce que c'était parfait. Et j'ai l'impression que c'est pas ça, déjà. C'est pas vrai qu'on peut pas revenir en arrière. Et j'ai l'impression que les deux discours sur l'Europe, en ce moment, ils sont super dogmatiques, les deux. T'as ou bien une acceptation sans aucune critique de ce modèle-là d'Europe. Et les gens qui soutiennent ce modèle d'Europe, ce sont les mêmes, souvent, qui soutiennent les pires mesures d'austérité et d'empauvrissement des travailleurs qui habitent l'Europe. Et les gens qui sont contre l'Europe, en fait, c'est toujours d'un point de vue super égoïste, super populiste, de fermeture, de repli et tout ça. Et donc, je sais pas vraiment comment me situer par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre l'Europe. J'ai grandi avec l'idée que c'était une valeur de mettre en réseau les différents peuples, de l'union et tout ça. Mais en même temps, je pense que ce qui doit unir, ce sont des politiques sociales qui aident les gens. Et alors que c'est pas le cas en ce moment.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on s'engage en politique quand on est auteur de BD ?
Je sais pas, je pense que la seule chose que les auteurs de BD, de films, de romans devraient faire, c'est à travers leur travail, non pas essayer de convertir les gens, mais de créer un imaginaire qui ressemble un peu plus au monde qu'on voudrait.
Le saviez-vous ? Zéro Calcar a une drôle d'histoire de famille. On en parlera dans une prochaine émission et on le mettra sans doute alors face à une Irlandaise qui, elle, fait très bien l'accent de sa mère et de sa grand-mère et qui a découvert très tardivement le secret de famille. L'exposition à la Fondation Cartier, c'est jusqu'au 16 juin. Quant aux livres de Zéro Calcar, ils sont publiés en traduction française aux éditions Cambourakis. Mais tout ça, les liens des films, les articles et les dessins de Claire Brault, vous les retrouverez sur franceinter.fr et sur le site de la première de la RTBF. Full Continental est aussi sur plein de réseaux sociaux. Merci pour votre écoute, merci à tous ceux qui ont répondu à mes questions européennes, à Benjamin à la réalisation, Martine Messonnier au montage, Mathilde Picard pour son aide. Vous trouverez un extrait de cette émission dans Libération lundi. Il y a une double page, édition spéciale avec les résultats et les analyses de vote. Passez une journée complètement formidable.